téléspectateurs, bouge.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. On est très fiers. C'est très important. Hello.
Alors, il est 9h41 sur France Inter. Merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Bon, je vous expose quand même le sujet du jour en espérant que l'invité va bien finir par arriver. L'Arabie Saoudite rompt avec le Qatar, qu'elle accuse de soutenir le terrorisme, et ferme immédiatement les bureaux d'Al Jazeera, la grande chaîne d'information qatari, la télévision la plus populaire du monde arabe, la caisse de résonance des printemps arabes, mais aussi, dit-on, le fief des frères musulmans. Que dit Al Jazeera aujourd'hui? Quelle est son influence? Quelle est son idéologie? Lorsque Claire Gabrielle Talon arrive jusqu'à la maison de la radio, eh bien nous lui poserons toutes ces questions car elle a publié l'un des ouvrages de référence sur cet empire médiatique qu'est Al Jazeera. Et puis surtout, on se demandera pourquoi est-ce que cette chaîne de télévision se retrouve au cœur d'une crise diplomatique. Ça sera quand l'invité arrivera. On va quand même dire un mot d'actualité des médias. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir la seconde 3 du lycée Montaigne qui va peut-être faire l'émission à la place de l'invité. Bonjour la seconde 3.
Bonjour.
Voilà, ils sont charmants.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Allez, un petit journal des médias très sérieusement à lire dans Le Monde ce matin. Les enfants, la feuille de route du gouvernement pour l'audiovisuel public, les patrons de France Télévisions et de Radio France sont invités par la nouvelle ministre de la Culture à accélérer des projets communs sur le modèle de France Info. Vous voyez ce que c'est France Info?
Oui.
Oui, vous voyez? C'est quoi pour vous France Info comme média? Une radio?
Non, c'est une chaîne de télé.
C'est une chaîne de télé, voilà. Donc c'était au départ une radio, ensuite c'est devenu un site internet d'infos et maintenant c'est une chaîne de télé. C'est les trois à la fois. Et alors du coup, le gouvernement manifestement veut pas lancer une sorte de grand chantier pharaonique où on casse tout et on met tout ensemble comme ça se fait en Angleterre à la BBC, c'est-à-dire à la fois les radios, les télévisions publiques mais aussi les chaînes d'infos internationales. L'idée, ça serait plutôt de favoriser des projets comme ça où on regroupe nos forces. Il y a des synergies à trouver, comme par exemple dans le domaine de la culture, entre France Culture, France Musique, France 5, la plateforme numérique Culture Box. À noter d'ailleurs que Michel Field, l'ex-directeur de l'info de France Télévisions qui a remis sa démission suite à la récente bronca de la rédaction, est en charge désormais de cette offre culturelle à recomposer, notamment sur le web. Alors après le service public, eh bien voilà les médias privés et leur passage obligé.
Bonsoir à tous. Comment passe-t-on du monde du mannequinat au monde de la bande dessinée? Avec beaucoup d'imagination, avec de la conviction, du talent et l'envie de se surpasser. Ce soir, sur l'antenne d'Europe 1, je reçois Jade Lagardère. Bonsoir.
Bonsoir, Nikos.
Alors là, c'est à lire dans plusieurs journaux ce matin, comme l'Express, mais précédemment dans Arrêt sur Image. Beaucoup se sont penchés cette semaine sur la fabuleuse promotion médiatique dont bénéficie la toute jeune Jade Lagardère pour sa toute première bande dessinée, éditée par une maison d'édition qui appartient à son mari, Arnaud Lagardère. Voilà, alors l'auteur Jade Lagardère est encensée sur Europe 1, vous venez de l'entendre au micro de Nikos, dans Paris Match, ce matin même, dans Elle, dans Public, trois magazines qui appartiennent également au groupe Lagardère. Voilà, alors tous les journalistes s'amusent désormais à relever les qualificatifs dont bénéficie l'auteur. Elle a tout d'une super-héroïne, la beauté, la bonté. Si Jade le pouvait, elle n'hésiterait pas à sauver le monde. La rapidité, ça c'était dans Elle et c'était sur Jade Lagardère. Voilà, et puis un dernier mot d'actu. Patrick Drahi, le patron de SFR Média qui a racheté Libération puis l'Express, et avec ce dernier une kyrielle de titres magazine, revend côté sud, côté est, côté ouest, Lire, Classica, Studio, Ciné Live, et ne conserve autour de Libé et l'Express que à nous Paris, 01.net. Point de vue, ça vous savez, c'est l'actualité des têtes couronnées, les princes et les princesses d'Europe, c'est super. Et My Cuisine qui devient aussi une chaîne de télé. Voilà, alors juste un tout petit mot parce que entre-temps Claire Gabrielle Talon est arrivée, donc on va l'installer à son micro, donc les élèves de la seconde 3 du lycée Montaigne ne vont pas faire l'émission à sa place. Juste un tout petit mot sur ce projet que vous avez mené des classes médias, il faut le dire, il y en a très peu en France, il y en a parfois au collège, parfois au lycée. C'est supervisé par le CLEMI qui est une branche de l'éducation nationale. À mon sens, c'est très très important parce que c'est une vraie éducation à la lecture de l'information. Qu'est-ce que vous avez fait vous cette année dans cette classe médias, c'est à ça qui va répondre à la question.
On a écrit des articles,
ouais.
On a rencontré des professionnels, des journalistes,
ouais.
Aussi des professeurs à Sciences Po par exemple.
Ouais.
On les a interviewés, on pouvait écrire des articles selon les rubriques, enfin selon ce qu'on aimait. Par exemple, on pouvait écrire un article sur un film qui venait de sortir, mm-hmm. parce qu'on l'avait bien aimé ou on l'avait pas aimé.
Kimberley.
Oui, ça nous a vraiment initiés aux médias et personnellement, ça m'a vraiment donné envie de faire du journalisme.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui. Hugo, il veut rajouter un petit mot? Qu'est-ce que tu as rédigé, toi, comme article cette année?
Par exemple, moi, j'ai fait pas mal d'articles sur le cinéma, parce que je suis un grand fan de cinéma et j'y vais souvent.
Ouais.
Du coup, ça me permet de faire partager mon enthousiasme sur certains films aux autres. Ça me permet aussi réciproquement de découvrir d'autres coups de cœur des camarades de classe.
Bon, moi, j'ai vu leurs travaux. En tout cas, c'était un sacré apprentissage de maniement, de l'image et du texte et des mots. Ils ont super bien bossé. Et si je vous reçois ce matin et si je salue Violetta Peralta et Didier Le Gall qui vous ont encadré cette année, c'est que ça serait vraiment, vraiment bien que l'Éducation nationale donne les moyens à d'autres collèges et à d'autres lycées de faire la même chose. Merci, bravo les enfants et bonne chance pour la suite.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Claire Gabrielle Talon, rapprochez-vous de notre micro. On est bien content de vous voir arriver. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit l'ouvrage de référence sur Al Jazeera, sur cet empire médiatique. Vous l'aviez intitulé à l'époque « Liberté d'expression et pétromonarchie » parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Al Jazeera, ce que je vous propose, parce que tous nos auditeurs ne sont pas très familiers de cette histoire, c'est qu'on la retrace un tout petit peu ensemble et qu'on réécoute peut-être ce qui est resté dans toutes les mémoires, à savoir...
Des opérations sont en préparation et vous les verrez chez vous dès qu'elles seront au point.
La voix est toujours aussi douce et les paroles prononcées toujours aussi menaçantes. Retransmis par la chaîne Al Jazeera et vraisemblablement enregistré à la fin de l'année dernière, ce message d'Oussama Ben Laden est le premier rendu public depuis plus d'un an.
Alors, Claire Gabrielle Talon, Al Jazeera a été créé en 1996 par la volonté du pouvoir de la famille régnante qatari. Mais c'est vraiment à ce moment-là que Al Jazeera a été connu dans le monde entier, reprise par toutes les chaînes de télévision du monde. C'est quand les cassettes d'Oussama Ben Laden étaient rediffusées sur son antenne. Ça a été la première chaîne d'Arabe Info continue et elle a été localisée à Doha, au cœur même du Qatar. Et ça, c'est très important.
Oui, c'est très important. Enfin, la principale force d'Al Jazeera à l'époque, ça a été d'être la première chaîne d'arabe arabe d'information en continu qui a donné à voir un certain pluralisme politique dans la région, ce qui était très très absolument pas le cas sur les chaînes satellitaires. Et notamment, elle a ouvert ses tribunes à des représentants des frères musulmans qui étaient énormément boycottés sur les chaînes nationales, locales. Oui. Elle a également donné la parole à des Israéliens, ce qui a fait scandale à l'époque.
Mais ça, c'est fondamental ce que vous dites, parce que c'est dans les gènes d'Al Jazeera. Donc, c'est très important de le rappeler aujourd'hui qu'on lui fait un procès en idéologie et en parti pris politique. C'est que ça a été une chaîne de débat très contradictoire où se sont croisés des nationalistes arabes, des gauchistes, des laïcs, des islamistes, des femmes voilées, des Libanaises en mini-jupe. Et ça, voilà, il faut pas l'oublier. C'est très, très marquant.
Oui, c'est marquant. Et je trouve, et ce qui est aussi assez ironique, c'est que finalement, comme vous le venez de le rappeler au début de l'émission, ce qui reste d'Al Jazeera, c'est la diffusion des cassettes de Ben Laden. Alors que quand on se penche sur l'historique de la diffusion de ces cassettes, on comprend d'abord que quasiment aucune cassette n'a été diffusée sans l'aval des Américains, qui ont leur plus grande base militaire dans le Golfe à quelques kilomètres des locaux du QG d'Al Jazeera. Mmh. Et puis surtout... donc ces cassettes, il y en a plein qui n'ont pas été diffusées, il y en a même qui ont été récupérées par CNN et qui ont fait l'objet d'un espèce de chantage après coup. Enfin, cette histoire est très très riche. Et puis surtout, c'est pas ce qui est le plus important et ce qui reste de l'histoire de cette chaîne finalement, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est surtout le fait d'avoir été un symbole du pluralisme.
Alors un symbole
et surtout,
du pluralisme.
Donner la voix aux frères qui, à mon avis, c'est beaucoup plus important.
Alors on va y venir justement, les frères musulmans, parce que là c'est au cœur de toute la crise qui se déroule aujourd'hui. Mais quelle forme de journalisme a promu Al Jazeera dans son histoire? Parce que des débats contradictoires, mais est-ce qu'en termes journalistiques, ça a été une vraie liberté de ton?
Alors, En fait, oui, c'est ça qui est remarquable et c'est ça qui est difficile à penser quand on parle d'Al Jazeera, c'est cette complexité qui fait que c'est une chaîne de télévision qui se développe dans un environnement qui n'est pas un environnement démocratique, au sens où on l'entend ici. Et en même temps, il y a un certain nombre de mécanismes de concurrence au sein du pouvoir de la famille royale qatari qui ont permis aux journalistes de la chaîne de jouir d'une véritable liberté d'expression et de pouvoir évoluer dans un certain pluralisme.
Ça veut dire que au sein de la famille régnante, il y a des courants très contradictoires,
il y a des courants idéologiques très contradictoires, il y a des rapports de force interpersonnels qui peuvent même être très, très rudes.
Et justement, parce que la famille régnante ne fait pas bloc, ça a permis à la rédaction de disposer d'une certaine marge, d'une certaine liberté.
Exactement, c'est pour ça qu'on a vu défendues à l'écran des positions très contradictoires.
Ouais.
Mais j'insiste sur le fait que c'est une chaîne, et si elle a un tel impact encore aujourd'hui, malgré tout, même après les printemps arabes, c'est quand même qu'elle s'est distinguée par son professionnalisme.
Oui.
Alors, pour juste revenir sur l'affaire des cassettes de Ben Laden, parce que ça en dit long aussi sur l'intérêt que cette chaîne a suscité et sur le fait que tout le monde, beaucoup de gens ont voulu essayer de mettre la main sur elle et d'influencer ses lignes éditoriales, pas seulement au sein du Qatar, mais un des plus grands directeurs d'Al Jazeera qui s'appelle Wadda Khanfal et qui a démissionné en 2011, il a démissionné suite à la diffusion de leaks par WikiLeaks qui le montrait précisément en train de subir des pressions américaines pour ne pas diffuser certaines images, entre autres.
D'accord.
C'est un fonctionnement extrêmement complexe et c'est un fonctionnement qui a permis effectivement à cette chaîne de défendre et de donner voix à des oppositions très diverses, très plurielles. Alors ça c'est un peu, c'est une chaîne qui a perdu un peu de...
Alors justement, c'était l'autre question préalable que je voulais vous poser avant qu'on en vienne à la crise actuelle. On a dit l'année dernière que Al Jazeera a accusé le coup, le Qatar a été frappé de plein fouet par la baisse du prix du pétrole, a accusé un très lourd déficit en fin d'année. Il y en a encore un à la fin de cette année-ci. On a supprimé 1200 emplois aux États-Unis, mais aussi à Doha. On a fermé la chaîne américaine d'Al Jazeera. Et donc, on a dit Al Jazeera très affaibli et puis par ailleurs lourdement concurrencé dans chaque pays par des médias locaux. Qu'en est-il ?
Alors, c'est vrai qu'on peut dire que le printemps arabe est finalement un moment de réouverture sur certaines scènes médiatiques nationales, notamment en Égypte, en Tunisie, etc., ont un peu effacé l'aura d'Al Jazeera qui est plus devenue à ce point centrale comme elle pouvait l'être avant 2011. Sauf qu'aujourd'hui, on est au contraire dans un mouvement de refermeture et je crois qu'il est très important notamment en Égypte, qui joue quand même un rôle médiatique important dans la région, entre autres en termes informatifs, mais aussi dans le Golfe. Et c'est ça qui est très important, c'est de voir, en fait, de comprendre qu'aujourd'hui, Al Jazeera, c'est finalement une des dernières voies satellitaires à porter, à défendre en fait l'option du printemps arabe et à ne pas suivre la ligne saoudienne qui est la ligne égypto-saoudienne, on pourrait dire, qui est aujourd'hui une ligne très dure et très inquiétante de refermeture.
Très répressive en matière de liberté.
Très répressive. Aujourd'hui, si vous regardez Al Jazeera aujourd'hui, il y a une liberté bien plus grande que sur n'importe quel écran saoudien. Sans parler de l'Égypte, où là, ça s'est totalement refermé. Et donc, c'est l'ironie de l'histoire, je trouve, c'est qu'en fait, dans une certaine mesure, Al Jazeera est en train de... Et le Qatar est en train de se poser un petit peu aujourd'hui comme un contre-pouvoir dans un environnement géopolitique régional qui est quand même extrêmement menacé en termes médiatiques.
Alors, il faudrait que vous expliquiez de manière simple, parce qu'on a des élèves de seconde avec vous dans le studio, de manière simple, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans et qu'est-ce que ça signifie justement ce soutien apporté et ce micro tendu aux frères musulmans de la part d'Al Jazeera ?
Aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant du... Aujourd'hui, les frères musulmans, ils représentent en fait l'une des rares options de l'islam politique, qui soit pas par opposition aux djihadistes... Et aux salafistes, aux takfiristes, etc. Et ce qui est intéressant précisément, c'est que le Qatar, en tout cas l'État du Qatar, s'est construit dans une, avec l'appui d'un certain nombre de frères musulmans qui avaient émigré dans les années 50, entre les années 50 et les années 80 dans le Golfe et qui ont énormément contribué à la fondation d'un certain nombre de ministères, notamment le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement au Qatar, et qui aujourd'hui encore joue un rôle très important dans les structures de l'État. Et notamment avec la promotion d'un courant dont Al Jazeera s'est fait en fait la voix, qui est celui qui a été porté et défendu par le Cheikh Qardawi, qui s'appelle le courant de la Wasatiyya, c'est-à-dire on pourrait traduire ça par la pondération ou la modération, qui est en fait précisément une option qui a été prise par un certain nombre de frères musulmans émigrés au Qatar dans les années 70 de renoncer à l'affrontement avec le pouvoir. Et si vous voulez, aujourd'hui, si le Qatar et Al Jazeera sont à ce point la cible de ces attaques, c'est parce que pour l'Égypte, pour le régime égyptien, pour le régime saoudien, il est crucial d'éliminer les frères en tant que force politique, puisque c'est la principale force d'opposition, ça l'a été juste après 2011.
Et le responsable du bureau d'Al Jazeera, justement à Riyad, dénonce l'acharnement de l'ensemble du monde arabe sur cette chaîne. Vous diriez la même chose, Claire-Gabrielle Talon ?
Je trouve que c'est quand même un acharnement qui provient, et on le voit bien là, cette campagne, elle est orchestrée par l'Arabie et ses alliés, l'Égypte, les Émirats, le Bahreïn, essentiellement. D'ailleurs, le rôle de l'Égypte est sans doute central dans cette affaire. Quand on regarde la liste des personnalités la liste qui a été diffusée des personnalités soi-disant terroristes au Qatar, sur 59 personnes, il y a 26 Égyptiens. D'accord. Donc on sent bien derrière l'enjeu qui est très très lié à finalement l'idée qu'il faut mettre un terme à cet épisode qui a été celui du printemps arabe et qui en est passé par la prise du pouvoir par les frères musulmans, et que pour ce faire, il faut absolument mettre au pas le Qatar, ce que ces États ont déjà tenté de faire en 2014. Ils avaient obtenu à l'époque, l'Égypte avait obtenu à l'époque la fermeture par Al Jazeera de une chaîne dévolue à l'Égypte.
Oui, oui.
Il faut mettre au pas le Qatar et puis il faut absolument faire taire Al Jazeera, en tout cas changer sa ligne éditoriale, d'où l'intensité des pressions auxquelles on assiste aujourd'hui.
Merci beaucoup Claire-Gabrielle Talon, et j'aimerais que vous reveniez un de ces jours, parce que ça n'est que le début de cette affaire, elle va évoluer.
Il faut donner du temps parce que c'est quelque chose de très compliqué.
De complexe, et puis elle va évoluer au fur et à mesure des événements, donc on va continuer à la suivre. En tout cas, bravo d'avoir surmonté ces pannes de RER, et merci à tous les élèves de la seconde 3 du lycée Montaigne de m'avoir accompagné en attendant notre invité. Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Ce matin, qu'est-ce que l'orgasme féminin? Nous attendons vos questions.
Je vous envoie les élèves.
Non,
vous
ça
allez
va,
faire
merci.
Un petit peu d'éducation sexuelle.
01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages.
Après l'éducation aux médias, l'éducation sexuelle.